Voilà, les enfants, je suppose, vont rejoindre les classes d'école du dimanche, où ils seront accueillis par les moniteurs et monitrices. Et je vous invite à faire une lecture dans le deuxième livre des rois. Le deuxième livre des rois, au chapitre 13 et au verset 14. Voilà, le deuxième livre des rois, le chapitre 13 et le verset 14. Voilà, nous voulons saluer aussi les visiteurs qui sont parmi nous, peut-être certains pour la première fois, que Dieu vous bénisse, vous accorde sa grâce et qu'il vous fasse du bien à tous égards. Deuxième livre des rois, chapitre 13, verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Élisée lui dit « prends un arc et des flèches ». Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël « bande l'arc avec ta main ». Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et il dit « Ouvre la fenêtre à l'Orient » et il l'ouvrit. Élisée dit « Tire » et il tira. Élisée dit « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » Élisée dit encore « Prends les flèches » et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, « Frappe contre terre !» Et il frappa trois fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, « Il fallait frapper cinq ou six fois. Alors, tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras trois fois. » Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joacaz, mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire, et jusqu'à présent il ne les a pas rejetés de sa face. Hazaël, roi de Syrie, mourut et Ben-Hadad, son fils, régna à sa place. Joas, fils de Joacaz, reprit des mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, les villes enlevées par Hazaël à Joacaz, son père, pendant la guerre. Joas le bâtit trois fois et il recouvra les villes d'Israël. Amen. Voilà, c'est peut-être pas un texte qu'on a tellement envie de lire. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Reconnaissez avec moi que vous préférez lire des récits de miracles, de guérisons, mais il y a aussi cela dans la parole de Dieu. Cependant, nous pouvons remarquer que s'il est vrai qu'Élisée était malade et la maladie a fini par l'emporter, sa vigueur spirituelle n'était pas affectée pour autant. Sa clairvoyance était intacte et il était toujours inspiré par le Saint-Esprit. Et nous le voyons ici communiquer une parole prophétique pour encourager le roi Joas et l'assurer des victoires futures sur les ennemis. Et effectivement, la prophétie s'est réalisée puisque, selon la parole de l'homme de Dieu, les Syriens ont été battus à trois reprises. Lorsque on lit l'histoire d'Élisée, et pour ceux qui fréquentent nos réunions d'études bibliques le vendredi soir, nous le faisons ces temps-ci, nous apercevons dans les chapitres précédents, par exemple au chapitre 5, au travers du prophète Élisée, de grands miracles se sont accomplis, de grands miracles se sont réalisés, par exemple, la guérison de Naaman. Vous voyez, cet homme, ce général en chef, justement, des armées de Syrie, qui était atteint de cette terrible maladie, de la lèpre, sur la déclaration d'une de ses petites esclaves qui était originaire du pays d'Israël, il est venu vers le prophète Élisée et par une parole de Dieu prononcée à son égard, cet homme fut guéri après s'être plongé cette fois dans les eaux du Jourdain et sa chair redevint pure et comme la chair d'un jeune enfant. Alors c'est vrai, l'Éternel est celui qui guérit. Alléluia. Mais ici, c'est Élisée lui-même qui est malade, au point, je le répète, que sa maladie finira par l'emporter. Voyez ? Ainsi, nous voyons ce paradoxe. Celui qui, d'une part, est l'instrument du miracle pour Naaman et pour d'autres, eh bien, lui-même est frappé par la maladie et en mourra. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Dieu est souverain. Ça veut dire que Dieu est souverain. Et nous devons, n'est-ce pas, considérer cette réalité qui nous est présentée par la parole de Dieu, que Dieu est souverain. Il est le maître et il ne se trompe jamais, quelle que soit la manière qui est la sienne de procéder dans notre vie. Oui, Dieu guérit. Les promesses de la Bible à cet égard sont fiables, elles sont certaines, elles sont, comme dira l'apôtre Paul, entièrement dignes d'être reçues, d'être crues. Cependant, on ne peut pas garantir que tout le monde sera guéri. Je ne suis pas en train de détruire votre foi, là. Je vous enseigne ce que la parole de Dieu nous montre. Ce que la parole de Dieu nous montre. Alors, il ne faut pas culpabiliser ceux qui souffrent en leur disant, par exemple, « Tu manques de foi !» Parce que des fois, dans nos milieux, ça s'est dit, ça. Ou en leur disant « Tu ne pries pas suffisamment !» Le malheureux, il fait que ça. Ça peut être vrai. Parfois, le Seigneur peut être amené à nous dire « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et notre prière doit être alors, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Mais d'autre part, il ne faut pas ajouter à la souffrance due à la maladie la fausse culpabilité qui proviendrait de ce qu'on n'a pas obtenu la guérison miraculeuse. Voyez ? Parce que c'est terrible ça. Si je suis malade, et si en plus je me culpabilise parce que je ne sais pas, paraît-il, recevoir la guérison, il y a deux souffrances. Il y a d'abord la souffrance physique et la souffrance morale et spirituelle que l'on imposerait en disant celui-là, eh bien, il n'est pas guéri comme il devrait l'être. Alors ce serait pire que de ne pas connaître le Seigneur, ça. Notre désavantage serait supérieur aux inconvertis, parce qu'un inconverti, il souffre de sa maladie et il fait avec, tandis que nous, non seulement le croyant qui n'est pas guéri, peut-être encore guéri, souffre dans son corps, mais en plus, à sa souffrance physique, on va ajouter un autre fardeau, celui de la fausse culpabilité. Celui de la fausse culpabilité, vous savez que le diable, il est expert pour nous culpabiliser là où il n'y a pas lieu de l'être. Et puis, la foi, m'en suis aperçu, et vous peut-être aussi, notamment quant aux problèmes de santé, c'est Dieu qui la suscite dans notre cœur. C'est Dieu qui est l'auteur de la foi. La Bible dit que Jésus, il est le chef et le consommateur de notre foi dans l'Épître aux Hébreux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que c'est celui qui implante, qui crée la foi dans notre cœur, qui crée la foi dans notre cœur, qu'il implante en nous, qu'il la suscite en nous. Et à cet égard, il ne faut pas confondre la vraie foi et l'autosuggestion. Vous savez, la méthode couée, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Vous pouvez y ajouter tous les versets bibliques que vous voulez et le dire 100 fois de suite, mais s'il n'y a pas la foi authentique dans votre cœur suscitée par l'Esprit de Dieu, ça ne marchera pas. Alors d'où vient la foi ? D'où vient la foi ? De la parole de Dieu. Épître aux Romains, chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend, est ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Alors bien sûr, il y a la foi écrite, la parole écrite, pardon, la Bible et ses promesses. Mais il y a aussi la parole que Dieu peut nous adresser personnellement. La parole que Dieu peut nous adresser personnellement. Et c'est quand Dieu nous parle ainsi que notre foi peut être irrésistible. Alléluia. Vous regardez avec des cocards comme ça. Vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter. Ce que je vous raconte, c'est absolument biblique, mes amis. C'est absolument biblique. Laissez-moi vous donner un témoignage personnel. Lorsque, il y a quelques années, vous le savez, a été diagnostiqué à mon égard un nodule cancéreux sur un rein, le Seigneur a eu pitié de moi. Dieu sait que, hélas, je ne suis pas un homme d'une grande foi, mais Dieu a suscité la foi dans le cœur de mon épouse et dans mon propre cœur. De telle sorte que la sérénité qui était la nôtre n'était pas le produit de je ne sais quelle force de caractère que nous aurions manifestée, mais de la grâce de Dieu. Ce cancer, puisque c'est de ça dont il s'agit, a été diagnostiqué le 23 février 2011. Et le 24 février, le lendemain, Dieu m'a parlé. Je n'ai pas l'habitude de dire ça comme ça. Vous savez, il y a des gens, Dieu leur parle tous les trois matins. Ça ne m'arrive pas, moi, ça. Avec moi, Dieu n'est pas bavard. Il est peu loquace, mais il parle parfois. Et Dieu m'a dit, je vous lis le texte, « Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a façonné dès ta naissance, celui qui est ton soutien, sois sans crainte. » Ça, c'est une parole biblique, c'est une parole que Dieu m'a adressée à moi, personnellement. Et c'est à partir de ça, vous voyez, que la foi est venue dans mon cœur. Je ne me suis pas mis dans un coin en disant « tu vas croire, tu vas croire, tu vas croire, tu vas croire ». Non, la foi, à partir de cette parole, est venue dans mon cœur et cette parole résonnait en moi « sois sans crainte, sois sans crainte ». Et puis là aussi, dans mon cœur, Dieu a agi, Dieu a parlé, je le traduis comme ça, comme me disant, mais non, c'est pas fini pour toi, tu dois encore me servir. Il y a encore des choses que tu as à faire dans le cadre du service de Dieu. Et c'est à partir, vous voyez, de cette double révélation, d'une part ce texte biblique que je viens de citer, d'autre part cette certitude qui a rempli mon cœur, que la foi est venue et que le calme et la paix se sont installés dans notre cœur. C'est ça la foi, mes amis. On ne peut pas le créer, on ne peut pas l'imaginer, on ne peut pas s'auto-suggestionner par des affirmations que l'on répète à l'infini, mais il faut recevoir une parole de Dieu. Et puis, autre enseignement à propos de ce texte que nous avons lu, la maladie n'est pas toujours en relation avec le péché. Ça aussi, il faut le dire. La maladie n'est pas toujours en relation avec le péché. Regardez Job. Est-ce que Job était malade, tout croyant qu'il était, parce qu'il avait péché? Non. Le Seigneur dira à son égard, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4, verset 13, dira « Ce fut à cause d'une infirmité que je vous ai, Galates, pour la première fois annoncé la parole de Dieu. » Et que dire aussi de cette fameuse écharde dans la chair dont il fait mention dans la deuxième aux Corinthiens. Il s'agissait vraisemblablement d'une infirmité, d'un problème de santé en tout cas, qui cependant ne l'a pas empêché d'exercer un ministère particulièrement fécond, parce que la puissance de Dieu, elle se manifeste souvent au travers de la faiblesse humaine. L'instrument peut être défaillant quant à sa santé, et cependant la puissance de Dieu peut passer au travers de lui. Il y a aussi Timothée, un ami, un collègue, un collaborateur de Paul, à qui il dira, eh bien, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions, vous voyez, il avait quelques soucis de ce côté-là, fais usage d'un peu de vin, d'un peu, hein. Et puis Trophime aussi. Dans la deuxième à Timothée, au chapitre 4, verset 21, Paul dira, j'ai laissé Trophime malade à Milet. Et tout cela dont je viens de mentionner, eh bien, en aucun cas, il n'est question de péché. La maladie n'est pas toujours en relation avec le péché. Mais ça peut se produire. Ça peut se produire. C'est pourquoi dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, au verset 14, quand il est question de l'onction d'huile, vous savez, la parole de Dieu dit, le Seigneur relèvera le malade, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La maladie n'est pas systématiquement due au péché. N'accusons donc pas ceux qui souffrent et ne les soupçonnons même pas d'avoir quelques péchés secrets, à moins que nous soyons les témoins direct du péché qui aurait été commis. L'exemple d'Élisée que nous venons de lire nous montre que même en période de réveil, et Dieu sait que nous aspirons au réveil, alléluia, aspirons à connaître des temps nouveaux, même lorsque le Seigneur agit au travers d'un ministère puissant, d'un de ses serviteurs, et je crois que le ministère d'Élisée était particulièrement puissant, même alors, il y aura encore des gens malades qui ne seront pas guéris. C'est peut-être pas populaire de dire cela, mais c'est la vérité, mes amis. C'est la vérité. Il y aura encore des croyants qui mourront, vous savez ça? Dans la Bible, il y a le récit de quelques résurrections, béni soit Dieu. Et je connais certains serviteurs de Dieu, un notamment, qui a vécu des expériences semblables de résurrection de mort. Mais ça se produira, oui, ça se produit quelquefois. Regardez, dans le livre des Actes, il est question de la résurrection de Dorcas, vous savez. Cette femme qui était d'entre les disciples, qui faisait beaucoup de bonnes œuvres, et par le ministère de l'apôtre Pierre, eh bien, le miracle s'est produit, morte qu'elle était, elle est revenue à la vie. Mais quand on lit le texte de près, on s'aperçoit que Dorcas, vraisemblablement, elle faisait partie des veuves de l'Église. Donc elle fut ressuscitée, mais son mari qui était mort précédemment, pas. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Tout cela, je le répète, n'a pas pour but, ce que je vous raconte, de perturber votre foi, mais de vous aider à ne pas entretenir des idées erronées qui amènent, et parfois ça a été le trouble dans nos églises, qui amènent le trouble et la fausse culpabilité. Les frères et sœurs malades doivent être entourés de beaucoup d'affection. Amen. Beaucoup d'affection. Et nous devons à leur témoigner cette affection avec sagesse, avec tact, avec discernement, faisant preuve aussi de discrétion et les soutenant par la prière. Par la prière. Ceci étant, nous devons prier et croire pour que le Seigneur guérisse encore. Et il le fait. Alléluia. Béni soit Dieu pour les quelques-uns qui parmi nous, ces temps-ci, ont pu rendre témoignage de la grâce de Dieu qu'ils ont expérimenté dans leur corps. Hein, notre frère Julien nous a rendu témoignage, Natacha, Augustine, qui eh bien, sont venus nous dire comment le Seigneur, en diverses circonstances, avait mis sa main. Parce que nous croyons à cette réalité et nous devons prier et croire pour que nous puissions voir la manifestation de sa puissance miraculeuse plus fréquemment. ses promesses étant toujours d'actualité. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Devons aussi prier pour que Dieu suscite de puissants ministères accompagnés de prodiges, de miracles, de guérisons, venant confirmer le message du salut. Le Seigneur travaille avec eux et confirmer la parole par les miracles qu'il accompagnait. Devons prier également pour des dons de l'esprit, des dons de guérison et des dons de miracles, et les autres dons aussi. Mes amis, c'est une petite parenthèse que j'ouvre, mais il faut que Dieu parle au milieu de nous. Ah oui, on dit amen, mais ça veut dire que les autres prophétisent. Mais moi, est-ce que je suis impliqué dans l'affaire? Est-ce que chacun pour votre part, frères et sœurs, vous fléchissez le genou devant Dieu le dimanche matin avant de venir au culte en disant « Seigneur, ce matin, remplis-moi de ton esprit et si tu le juges bon, me voici à ta disposition pour exercer de ta part quelque don spirituel qui fera du bien au peuple de Dieu. » Alléluia, c'est ce qu'il faut faire, mes amis. Et puis un don de guérison, eh bien, peut se manifester parmi nous. Je me souviens de cette fois où à Avignon, un frère qui était un frère sensé, équilibré, vous voyez, parce que sinon, je me serais méfié, je n'y aurais pas laissé le micro, m'a dit, j'ai quelque chose à dire. Alors je lui ai dit, ben vas-y, Christophe, il s'appelait Christophe. Et Christophe est venu au micro et tout simplement, il a fait part de la révélation qu'il avait reçue en me disant, ce matin, quelqu'un est guéri par le Seigneur. Il a répété ça deux ou trois fois, il est revenu s'asseoir. À la sortie, une sœur, une chrétienne qui souffrait d'une sciatique terrible. Je le savais, j'avais été la voir. Et la pauvre, elle ne savait pas où se mettre. Elle changeait de chaise, de fauteuil. Hein? Moi, j'avais prié, elle n'avait pas été guérie. Mais ce matin-là, mes amis, Dieu a fait quelque chose. À la sortie, elle m'a dit, je suis guérie. Quand le petit frère, comme elle disait, a dit ça, j'ai été guérie. Alors moi, incrédule, parce que vous êtes des gens de foi, je me suis dit, cause toujours, on va voir ce que ça donne. Hein. Et puis j'ai attendu une semaine. Je suis guéri, frère. Deux semaines, trois semaines, mais c'est qu'elle était guérie. Hein. Guérie de chez guérie. Alors je lui ai dit, vous allez en rendre témoignage. Voyez, ça c'est le ministère du Saint-Esprit. Et il faut que ces choses se produisent. Et il faut prier dans ce sens. Dans ce sens. Dans ce passage que nous avons lu, il y a un fait aussi étonnant. Ce n'est pas étonnant, ça? La résurrection du mort jeté dans le tombeau d'Élisée. Il va toucher le cadavre, les os tout secs du prophète, qui est mort une bonne année auparavant, et le gars, il reprend vie. Quel miracle! Pourquoi Dieu a-t-il fait ainsi? Oh, ça n'a rien à voir avec le culte des reliques. Ça n'a rien à voir avec le culte des saints, avec les pèlerinages. Non, Dieu a fait ça pour montrer au peuple que les miracles ne procèdent pas de l'homme, mais de Dieu. Procèdent pas de l'homme, mais de Dieu. Élisée avait disparu, mais le Dieu d'Élisée était toujours là. Vous savez ça? Le Dieu d'Élisée, il est toujours là. C'est le même Dieu encore aujourd'hui, c'est vrai. C'est pourquoi nous pouvons, nous devons nous attendre à la manifestation de sa puissance miraculeuse en tout temps, même ici, aujourd'hui. Alléluia. Alors en conclusion, parce que je vais conclure, vous voyez, je ne serai pas très long ce matin, une fois n'est pas coutume, je voudrais m'adresser à ceux qui souffrent dans leur corps. Parfois depuis longtemps. C'est vrai, si le Seigneur vous parle, je dis si le Seigneur vous parle, quant à quelque chose qui n'a pas été net dans votre vie, un péché, disons-le clairement, il vous faut certes le lui confesser et cesser de pratiquer ce péché dans lequel peut-être vous avez vécu jusqu'à présent. Et parfois, il s'agit de confesser le péché à Dieu seul. Mais d'autres fois aussi, il faut le confesser à ceux que peut-être nous aurions pu offenser par, je ne sais pas, notre médisance ou en causant du tort d'une manière ou d'une autre. Maintenant, attention, il n'est pas question de se découvrir un péché à tout prix. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il est dit « Ne sois pas juste à l'excès, de peur que tu ne te détruises. » Vous voyez, il y a des gens qui sont tellement scrupuleux qu'ils cherchent du poil aux œufs. Hein. Pas question de chercher, de se découvrir un péché à tout prix. Quand je parle de péché, là, je parle non pas de péché imaginaire, mais de péché réel qu'il faut confesser au Seigneur. Vous savez, il y a une prière que Dieu n'exauce pas. Ah oui ? Laquelle ? Celle que j'entends parfois. « Seigneur, si j'ai péché, pardonne-moi. » C'est ridicule, ça. Si tu as péché, Dieu va te le montrer et tu lui demanderas pardon. Et si tu n'as pas péché, il n'a rien à te dire. Alors, ce n'est pas la peine de dire « si j'ai péché. » Seigneur, je te confesse mon péché, mais si tu ne montres pas clairement quelque chose de précis, alors, eh bien, je compte sur ta grâce. Et puis, je voudrais dire aussi que vous qui souffrez, vous devez demander au Seigneur qu'il vous adresse une parole qui vous concerne personnellement, sur laquelle votre foi pourra s'appuyer fermement. Décidez de chercher le Seigneur dans ce sens. Ne vous précipitez pas à dire « je crois ». Non, cherchez le Seigneur. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il vous parle, jusqu'à ce qu'il vous communique une parole qui vous concernera, vous et personne d'autre, qui sera comme une flèche de délivrance dans votre cœur. Et lorsque cette flèche sera plantée en vous, personne ne pourra l'arracher. Vous accrocherez à cette parole et vous direz « Maintenant, Seigneur, je puis croire parce que tu m'as parlé là, à moi, dans mon cœur. » Et votre foi sera irrésistible et vous recevrez le secours divin. Enfin, rappelons-nous qu'un jour, le Seigneur nous donnera un corps nouveau. Amen. Parce qu'après tout, même les plus beaux miracles, même les plus belles guérisons ne sont que temporaires. Oui ou non? Même Lazare, qui est ressuscité après 4 jours passés au tombeau, il est mort, il est ressuscité, mais quelques années plus tard, disons-le comme ça, il est remort. Non? Mais quand Jésus reviendra, peut-être on sera mort, on ressuscitera, mais on ne remourra pas, parce que nous vivrons éternellement. Un corps nouveau. Un corps nouveau. Seigneur, que la maladie, que la souffrance, que la faiblesse, avec tout le respect que j'ai pour les anciens, que le vieillissement et que la mort même ne pourront plus atteindre. Gloire à Dieu. En pleine forme pour l'éternité. C'est ce que la parole dit. 1 Corinthiens chapitre 15. Le corps est semé infirme, il ressuscite plein de force. Et à l'Apocalypse, au chapitre 21, verset 4, l'apôtre Jean dira « La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, ni souffrance. La mort ne sera plus, car les premières choses auront disparu. » Gloire à Dieu. Alors voyez, ce sera le triomphe de la vie, de la grâce et de la bénédiction. Amen. On va prier, vous savez. On va prier le Seigneur. Et on va prier pour ceux qui souffrent parmi nous ce matin, qui ont un problème de santé. Alors, je ne vais pas leur demander de...